Père, Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il y a dans l'évangile d'aujourd'hui, mes frères, une sorte d'écho de l'évangile de dimanche dernier. Il y a une semaine, Jean-Baptiste, vous vous souvenez, envoyait auprès de Jésus des émissaires, alors que lui-même, Jean-Baptiste, était en prison, pour lui demander qui il était vraiment. Es-tu celui qui doit venir ou faut-il en attendre un autre ? Aujourd'hui, c'est au tour de Jean-Baptiste de décliner son identité devant les représentants des autorités juives. Mais si l'interrogation de la semaine dernière de Saint Jean-Baptiste à l'égard du Seigneur était pleine de bienveillance, était tout à fait de bonne foi, celle des envoyés du Sanhédrin aujourd'hui à l'égard de Saint Jean-Baptiste est nettement moins sympathique. Il s'agit en fait d'interrogation, d'un interrogatoire en bonne et due forme. Il s'agit d'une sorte de visite canonique, comme on dit dans l'Église, mais une visite canonique pas très sympathique. Alors, le pasteur est en ce moment, vous le savez peut-être, en inspection canonique. Voilà, mais rien à voir avec cette inspection canonique. Elle est très bienveillante, celle du mon pasteur, sous la houlette de ce bon archevêque de Bordeaux, Monseigneur le cardinal Ricard. Voilà. Petite parenthèse pour vous inviter à prier pour que les choses se passent bien, selon la volonté du Seigneur, surtout. Voilà donc que Saint Jean-Baptiste fait l'objet d'une visite canonique, mais il n'a rien de sympathique. Il nous dit, on lui envoya de Jérusalem, comme on dit parfois, les hommes venus de Paris. Vous voyez, les apparatchiks un peu. On connaît la condescendance dont peuvent faire preuve certains hauts fonctionnaires parisiens lorsqu'ils arrivent en province, et qu'à l'improviste, ils interrogent tel ou tel fonctionnaire local. Eh bien, c'est un peu la même chose qui se passe avec ces envoyés de Jérusalem. Ils arrivent auprès de Saint Jean-Baptiste, plein de morgue et de condescendance, parce que eux, ils viennent de la haute. Alors face à ces hommes, face à ces envoyés du pouvoir central, Jean-Baptiste ne cherche pas à se faire valoir, comme c'est souvent le cas lorsqu'un haut fonctionnaire entre dans un bureau, le moindre des petits bureaucrates de province essaye de raconter les choses de sorte qu'il puisse se mettre en valeur. Ce n'est pas du tout ce qui se passe avec Saint Jean-Baptiste. Il n'a aucun respect humain. Songez à la réponse qu'il leur donne, « Je ne suis ni le Christ, je ne suis ni Élie, et je ne suis même pas le prophète. » Vous voyez, une sorte de dégringolade dans la présentation que Saint Jean-Baptiste fait lui-même. « Je ne suis ni du premier, ni du deuxième, ni du troisième rang, si vous voulez. Je ne suis, finalement, rien. » Imaginez ce qui s'est passé dans l'esprit de ceux qui l'interrogeaient. Ils ont dû se dire, « Mais s'il n'est ni le roi attendu, le Messie, s'il n'est ni son bras droit, Élie, s'il n'est même pas cette sorte de préfet, qui est le prophète qu'on attend, alors qui est-il donc ? » Ces émissaires s'arrêtent au titre. Ces émissaires s'arrêtent au galon. Or, Saint Jean-Baptiste avoue lui-même qu'il n'a aucun titre, aucun galon. Ils en concluent donc qu'il n'est rien. Voilà comment raisonnent ces fonctionnaires venus de Jérusalem. Alors, déroutés, ils finissent par demander à Saint Jean-Baptiste, en désespoir de cause, « Dis-nous qui tu es ?» « Que dis-tu de toi-même » C'est la question qu'ils auraient dû poser dès le début. Au lieu de s'arrêter au titre, au lieu de s'arrêter aux apparences, ils auraient dû chercher à savoir qui était vraiment Saint Jean-Baptiste. Et s'ils posent cette question, ce n'est pas du tout parce que, d'un coup, découvrant qu'il n'a aucun titre, ils sont pris de sympathie pour lui et qu'ils aimeraient savoir qui est cette personne qu'ils ont devant eux. Pas du tout. Il faut qu'ils rendent un rapport à l'autorité qui les a envoyés. Alors, puisqu'ils ne peuvent pas rendre un rapport totalement vide, il faut bien qu'ils aient quelque chose à se mettre sous la dent. Ils interrogent donc Saint Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est tellement simple, il est tellement pauvre, qu'il ne cherche pas à compenser son manque cruel de titre glorieux. Il aurait très bien pu leur dire, à juste titre, « Je suis le cousin du Messie. » Et oui, j'ai le même sang que lui. Je suis Saint Jean-Baptiste. Il n'aurait pas dit ça comme ça, il aurait dit « Je suis Jean-Baptiste. » Le fils d'Élisabeth. J'ai des liens de parenté avec cet homme-là. Il aurait pu dire, comme le prétend le prologue de Saint Jean, en toute vérité, qu'il était le témoin de la lumière. Ça, c'est quelque chose de glorieux. Or, Saint Jean-Baptiste laisse de côté ses qualités. Il choisit de s'amenuiser encore aux yeux de ses spectateurs. Il se contente de dire qu'il n'est que la voix de celui qui crie dans le désert. Vous voyez, quelque chose de très impersonnel. Ni le cousin du Seigneur, ni le témoin de la lumière, il n'est qu'une voix, une petite chose. Vous voyez ? Il ajoute même qu'il est indigne de délier jusqu'à la courroie de la sandale de celui qui l'annonce. Ça, c'est un détail qui peut-être vous échappe, mais ce n'est pas anodin, ce petit détail-là. Dénouer la courroie de la sandale, c'est, disait-on, la seule chose qu'un rabbi, qu'un rabbin ne pouvait pas demander à ses disciples. Les disciples étaient un petit peu corvéables, à merci, par le rabbin, ils vivaient avec lui, et ils pouvaient exiger d'eux toutes sortes de services. Il y avait une limite à cela, il ne fallait pas humilier les disciples. Et demander de retirer la courroie de la sandale, c'était clairement les humilier. Et bien Saint Jean-Baptiste, lui, n'a pas peur de dire qu'il n'est même pas digne de délier, de faire ce geste humiliant. Vous voyez, il est vraiment sous terre devant celui qu'il vient annoncer. Alors cette présentation a dû dérouter ses inspecteurs, évidemment. Ils se sont demandé pour quel motif avait devant eux un homme qui s'auto-flagellait, qui s'auto-humiliait. Ils se sont arrêtés, là encore, à l'extérieur. Ils se sont dit, mais cet homme-là a des foules autour de lui. Saint Jean-Baptiste avait un succès certain. Cet homme-là, il fait le faux modeste. Devant nous, il fait semblant qu'il n'est rien parce qu'il ne peut pas de problème avec l'autorité. En réalité, c'est un faux modeste. Ou encore, ils ont pu considérer, à voir son aspect extérieur, hirsute, par les cheveux, les yeux de feu, ce corps maigrichon, ses habits dérisoires, il est vêtu de peau, vous le savez, ses sauterelles qu'il mange. Ils ont dû se dire, ce type est fou, est profondément malade. Et lorsqu'il s'amenuise devant nous comme ça, et qu'il ne réduit à rien quant à sa réputation, quand il dit qu'il n'est rien, à voir son apparence physique, on voit clairement qu'on a affaire à un dépressif du tout dernier degré, un type qui a besoin de se faire soigner. Alors, vous voyez, ces pauvres envoyés du temple ne savaient pas trop sur quel pied danser. Et évidemment, ils ont dû rentrer bredouille chez eux, ils ont dû se faire tancer par les princes des prêtres et du peuple, parce qu'ils n'avaient pas de quoi identifier ce bon Jean-Baptiste. Mais nous qui savons que Saint Jean-Baptiste n'est ni un taré, ni quelqu'un qui fait semblant d'être modeste, nous devons percer l'identité du Baptiste. Nous devons nous demander pourquoi Saint Jean-Baptiste s'abaisse ainsi. Qu'est-ce que c'est que cette conduite de se réduire aux yeux de ceux qui viennent l'interroger à rien? Est-ce que vraiment c'était dans l'intérêt du Seigneur que ces héros, que ceux qui l'annonçaient, s'écrasent ainsi à même le sol? Peut-être qu'il aurait fallu des héros un peu plus glorieux, un peu plus triomphants. Pourquoi Saint Jean-Baptiste se permet-il de s'humilier en public? Bien sûr, premièrement par humilité. Comme tous ces saints, il appartient à la race des saints les plus austères, comme tous ces ascètes du désert qui progressent en perfection, ils progressent en même temps dans la claire conscience qu'il n'est rien. Il suffit d'ouvrir une ou deux pages de moines bien trempés et on considère bien ces hommes-là dans une lucidité parfaite, autrement plus profonde que la nôtre, savent bien qui ils sont, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais plus fondamentalement, si Saint Jean-Baptiste insiste en public, en s'humiliant aux yeux de tous, c'est parce qu'il ne veut pas faire écran au Seigneur. Il est le porte-parole de la parole même incréée. Et il n'entend pas du tout ce porte-parole écrasé ou quoi que ce soit, être un mauvais porte-voix. Il a du succès, nous le disions tout à l'heure, il a des foules qui le considèrent, jusqu'à Hérode. Vous savez qu'Hérode avait, c'est ce que nous dit le texte sacré, de la sympathie pour Jean-Baptiste. Il ne l'a tué que parce que, finalement, il n'avait aucun courage, parce que c'est poire, parce qu'il a voulu complaire aux femmes de son environnement. Mais il avait de la sympathie, il aimait entendre Jean-Baptiste, nous dit-on. C'est des reproches, il ne racontait pas les petites choses mielleuses. Mais il aimait l'entendre. Saint Jean-Baptiste devait être quelqu'un de captivant. Et il aurait pu, du moins c'est ce qu'il craignait, il aurait pu capter l'attention et faire écran au Seigneur. De sorte que les foules se concentrent uniquement sur lui, sur ce baptême de pénitence, sur l'intégrité de cet homme-là, à quelqu'un qui retourne aux sources, enfin quelqu'un qui nous parle le langage de Dieu. Et on aurait pu mépriser le Messie, ne pas écouter le Seigneur Jésus. Considérer que, bon, ce charpentier de Nazareth est sympathique, il enseigne même avec autorité. Mais Saint Jean-Baptiste, ça c'est du solide. Il vit au désert, mange des sauterelles, c'est tout. Vous voyez, il aurait pu faire obstacle à Jésus. Et parce qu'il veut éviter cela, il dit un peu partout, au désert, qui veut l'entendre, et devant ses représentants de l'autorité juive, il dit, il faut que je diminue et que lui croisse. je ne suis rien, il est tout. Vous voyez que saint Jean-Baptiste n'est pas malade lorsqu'il dit qu'il n'est rien. Et j'en viens à notre propre personne, au cas de chacun d'entre nous aujourd'hui. Il faut trouver une incidence concrète à tout cela. Bien, nous n'avons pas à considérer que nous ne sommes rien, que nous ne sommes qu'un débris, que nous ne sommes, vous savez, parfois de cette catégorie de fidèles qui viennent à vous. Alors ça, c'est totalement déplacé, ce n'est pas du tout la conduite de saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste se sait créé par Dieu, il se sait sur le point d'être racheté par Dieu. Il voit les talents que Dieu lui a donnés. Saint Jean-Baptiste est lucide, il sait qu'il parle avec autorité, il sait qu'il est quelqu'un de bien, au fond. Mais s'il s'humilie devant les autres, c'est parce qu'il est un profond pédagogue. Encore une fois, il s'humilie devant les autres afin que les autres ne s'arrêtent pas à ses talents. Est-ce que nous-mêmes, qui avons à être témoins du Christ, comme Jean-Baptiste, nous savons avoir cette même discipline personnelle? Est-ce qu'il n'est pas tentant? Je suis le premier à le confesser, notamment parce que je porte la vie et que mon rôle est de prêcher l'Évangile. Il est très tentant de capter l'attention. Si on a un peu de talent, et on en a toujours un peu, il est facile de faire écran au Seigneur dont nous devons normalement être de simples émissaires, de simples porte-paroles. Régulièrement, nous avons cette tentation de jouer de nos talents personnels et de s'arrêter là. De parler du Christ parce que ça fait bien, mais de ne pas porter les gens jusqu'au Christ. Vous voyez l'enjeu de cette annihilation publique de Jean-Baptiste. Il veut n'être rien pour que le Seigneur soit tout. Il veut renvoyer au Seigneur, n'être qu'un miroir qui reflète la lumière, mais surtout qu'on ne le prenne pas pour la lumière. Vous voyez donc que l'Évangile d'aujourd'hui nous apprend beaucoup sur la conduite à tenir. La semaine dernière, saint Jean-Baptiste nous montrait par son exemple comment nous pouvions approcher du Christ, connaître le Christ, par la vie au désert, le silence, pas de dispersion, et par la méditation perpétuelle de la parole de Dieu. À quoi saint Jean-Baptiste a-t-il reconnu le Messie? Il était troublé, souvenez-vous, dans sa prison. Il ne savait plus, il doutait, il ne savait plus s'il avait dans la personne de Jésus le Messie lui-même. Que fait-il? Il scrute la parole de Jésus pour s'identifier devant lui, utilise toutes les prédictions qui ont été faites. Il lui montre, regarde, tous les signes prophétiques du Messie sont réalisés. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux, etc. Vous voyez, il a scruté la parole de Dieu, il connaissait parfaitement toutes les prédictions de l'Ancien Testament, et lorsque Jésus lui a affirmé que tout était en train de se réaliser, alors il a reconnu dans le Seigneur Jésus le Messie. Et cette connaissance de Jésus s'est faite avec efficacité parce qu'on avait un homme du désert, du silence, contemplatif. La semaine dernière, donc, il s'agissait de connaître Jésus. Quoi ? Silence, parole de Dieu. Vous voyez lire pour la deuxième partie de cet avant. Et aujourd'hui, il s'agit davantage de témoigner du Christ. Connaître le Christ la semaine dernière, par la méditation au désert et la parole de Dieu. Aujourd'hui, annoncer le Christ, comment ? En s'annihilant soi-même, en utilisant les talents que le bon Dieu nous a donnés, mais sans les détourner à notre propre profit. Et ça vous fait un programme pour cette deuxième partie de l'Avent. Et cette proximité avec le Christ, dans la parole de Dieu et dans la méditation, cette annihilation de nous-mêmes, sans complaisance malsaine, cette annihilation de nous-mêmes, permettent d'être de véritables chrétiens, c'est cela qui nous met dans la joie. J'en viens au thème d'aujourd'hui, pour conclure. Tout de même, je n'avais pas laissé passer le jour de Gaudete. Normalement, nous portons des ornements roses, mais vous aurez constaté que celui-ci est rose tout à fait mitigé, sans vous parler de la joie. Ce qui nous met dans la joie, c'est approcher du Christ et être ensuite des relais du Christ, mais des relais qui ne captent rien, qui ne se servent pas au passage. Ça nous met dans la joie. Nous sommes Christo-conformés, nous sommes des Christophe, Christophore, nous portons le Christ. La démarche que nous pouvons adopter jusqu'à la fin de l'Avent et au-delà, bien sûr, nous serons aussi heureux devant la crèche que nous aurons été acharnés pendant cette préparation de Noël à vraiment approcher du Christ et à en témoigner sans rien capter pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.